La peur d'être détruit, la peur d'être trompé, la peur de décevoir. Donc ce texte se trouve dans le livre de 1 Samuel. Pour le remettre un peu dans le contexte, 1 Samuel, à cette époque, Israël traverse une période compliquée. Vous me direz, quand est-ce que ça n'a pas été compliqué avec Israël? Donc au départ, Israël n'avait pas de roi humain. Dieu lui-même était leur roi. Il les guidait, les protégeait et leur donnait sa loi. Mais au bout d'un moment, le peuple commence à regarder autour de lui. Il voit les autres nations et il veut leur ressembler. Ils disent, nous voulons un roi comme les autres peuples. En demandant cela, le peuple ne fait pas juste une demande politique. En fait, il rejette la seigneurie de Dieu. Quand j'étais plus jeune, au collège, il y avait un peu une mode d'avoir beaucoup de paires de baskets. Et quand je voyais les baskets de mes copains, je me disais, moi aussi, je voudrais avoir des Adidas, des Nike, tout ça. Et en fait, cette histoire du peuple d'Israël ressemble un peu à un garçon à qui son père a fabriqué des chaussures exprès pour lui. Il a confectionné des chaussures, il a mesuré le pied de son fils, il a teint les chaussures de la couleur préférée de son fils, il a fait très attention d'utiliser des produits de très bonne qualité et durables. Et donc le petit-fils est très reconnaissant. Mais au bout d'un moment, le fils commence à se lasser. Il commence à regarder autour de lui. Et il va voir son père, il dit, Papa, donne-moi de l'argent, je veux des Nike. Et le papa lui dit, Mais mon fils, je t'ai fabriqué des chaussures et tu t'es réjoui lorsque je te les ai offertes. Je t'ai même mis une semelle orthopédique parce que tu m'avais dit que tu avais mal aux pieds. Et le fils dit, Oui, mais maintenant je veux des Nike comme les copains. Et le papa cède et lui offre donc des Nike. Mais elles n'ont pas tenu longtemps parce qu'elles n'étaient pas de bonne qualité. Et alors que le fils se retrouve pieds nus, il demande à son père, Est-ce que je peux reprendre mes anciennes chaussures, celles que tu as faites pour moi? Et le père lui dit, Oui, bien sûr, tu peux les reprendre, je les ai même cirées pour toi. Cette histoire, en fait, ressemble à ce que le peuple d'Israël a vécu. Dieu accepte la demande d'Israël, il leur donne un roi, Saül, et sur le papier, Saül, en fait, est parfait. Saül est grand, beau, fort, charismatique, et victorieux sur beaucoup de batailles, notamment contre les Philistins, les ennemis jurés d'Israël. Mais peu à peu, en fait, dans l'histoire, on voit que Saül a des défauts. Il est impatient, il cherche à contrôler et il est avide de reconnaissance. Trois choses qui peuvent nous emmener à faire beaucoup de dégâts, surtout si on est un dirigeant, si on a des postes à responsabilité. Et ces trois choses, en fait, vont l'amener à s'éloigner de plus en plus du Seigneur et à pécher contre lui. Saül finit par désobéir encore et encore. Et en fait, il s'avère que Saül était un roi selon le cœur du peuple et pas selon le cœur de Dieu. Dieu décide donc de choisir un autre roi qui n'est ni un prince, ni un guerrier, ni un homme impressionnant, mais un jeune berger qui est oublié dans les champs, David. David est petit, jeune, sans expérience militaire, mais il a quelque chose qui est fondamental, en fait. C'est qu'il aime profondément Dieu et il cherche son regard plus que celui de ses frères. Et c'est là que commence notre histoire de David et Goliath. Donc les Philistins envahissent le territoire d'Israël, les deux armées se font face et ils sont chacun sur une colline et il y a une vallée qui les sépare. Ils savent très bien que le premier qui va sur la vallée, qui descend de la vallée, se trouve dans une situation délicate et risque de perdre la bataille. Donc les deux camps restent sur leur colline. Alors les Philistins envoient leur champion, qui est Goliath. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4, « Un homme sortit du camp des Philistins, et il s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze, et il portait une cuirasse en écaille en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille, et il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui ou que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Je saute un passage et je vais au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur, gardez les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. » Je saute au verset 42. « Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. » Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » « Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers David, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il y prit une pierre et la lancera avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Jusqu'ici la parole de Dieu. Voilà, ce texte nous montre qu'il y a trois façons de faire face à la peur. La première, c'est de faire face à la peur comme Goliath. Goliath Sa manière de faire face à la peur, c'est de l'évacuer complètement. Il évacue sa peur parce qu'il se croit invincible, il se croit au-dessus de David, il se croit au-dessus de Dieu. Il fait confiance à sa taille, il se fait confiance à son armure, son expérience, il fait confiance à sa réputation. Il méprise David parce qu'il pense que tout se joue à la force humaine. Et ça, c'est une réaction que parfois, nous aussi, on peut avoir. Devant certaines situations qui peuvent être compliquées, alors qu'une peur surgit en nous, on cherche à l'évacuer en se surestimant, en se croyant au-dessus de certaines situations, au-dessus de certaines personnes même. On se dit qu'on va gérer tout seul, qu'on en est capable et qu'on a besoin de personne. Mais dans cette situation-là, vis-à-vis de Goliath, se surestimer, c'est perdre le sens de la réalité. Paul nous dit, ayez une juste opinion de vous-même et ne vous surestimez pas. En fait, Goliath oublie que la fronde de David, c'est pas un jouet, c'est une arme terrible qui peut lancer une pierre à la vitesse comparable à une balle de revolver. La vraie sagesse reconnaît ses limites. Nous n'avons pas été créés tout-puissants, on a des limites et il faut les respecter aussi. La deuxième manière de faire face à la peur, c'est comme Saül et le peuple, c'est-à-dire de fuir. Saül et l'armée font l'inverse de Goliath, ils fuient, ils ont peur et ils se cachent. Même Saül, lui qui était censé protéger son peuple, tremble devant Goliath. Il fuit l'affrontement. Et la fuite peut prendre plusieurs formes. Soit d'éviter les problèmes, la procrastination, faire comme si tout allait bien et espérer que ça disparaisse tout seul. Et la peur ici, vis-à-vis de Saül et du peuple d'Israël, révèle un manque de confiance en Dieu. En fait, Dieu n'a pas lâché son peuple. Et Saül perd sa responsabilité. Saül n'a pas assuré. Et c'est ça que c'est le roi que voulait le peuple. Quelqu'un qui présente bien, mais qui au fond n'a rien dans le ventre, qui ne fait pas confiance en Dieu. Mais ils oublient une réalité essentielle, c'est que Dieu est toujours fidèle à son alliance, fidèle à son peuple, qu'il a promis de les protéger. Dieu ne nous demande pas de tout maîtriser, mais il nous demande de lui faire confiance, même quand on ne voit pas l'issue du combat. La troisième manière de faire face à la peur, c'est de faire preuve de courage, comme David. David n'est pas inconscient. On n'en parle pas dans le texte, mais sûrement que David avait peur. C'est un jeune garçon devant un guerrier qui a beaucoup d'expérience. Il sait qu'il peut mourir. Mais ce que nous montre David, c'est que pour lui, en fait, il vaut mieux mourir en faisant ce qui est juste que de vivre comme un lâche. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de faire ce qui est juste malgré sa peur. Et David se souvient, il se souvient du lion, il se souvient de l'ours, il se souvient de toutes les fois où Dieu l'a délivré. Et sa confiance repose sur une vérité qui est très simple. C'est que l'Éternel qui m'a délivré tant de fois me délivrera encore. Et David est motivé par deux choses. La première chose qui le motive, c'est la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël a été insulté, Dieu a été insulté. Et il dit, qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? David a un amour profond pour Dieu et il ne supporte pas que son nom soit méprisé. Bon, ça c'était à l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est quand même différent. on ne va pas tuer les gens qui insultent Dieu. Mais la deuxième chose qui motive David, c'est la paix pour Israël. Si Goliath tombe, le peuple est libéré. David combat pour Dieu et pour les autres, pas pour sa propre gloire. Et c'est donc avec les armes du berger que David se bat et s'avance devant Goliath pour protéger son futur troupeau. Quand on lit ce texte, souvent on se dit, mais quel est mon Goliath? Quel est le géant devant moi? Quelle pierre dois-je lancer? Et si on se pose ces questions-là, en fait, on va passer à côté de l'essentiel. Ce récit n'est pas d'abord écrit pour nous montrer ce que nous devons faire, mais surtout pour nous montrer ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu fait pour son peuple. Regardez Israël, le peuple ne manque pas d'armes, mais il manque un champion. Et quand David arrive, il ne demande pas l'aide de l'armée, mais il descend seul dans la vallée. La victoire ou la défaite ne dépend pas de la performance du peuple et de son armée, mais de l'issue du combat d'un seul homme. David est ce qu'on appelle un médiateur, un champion. Il combat à la place d'Israël. Le peuple reste sur la colline, silencieux, tremblant et incapable. Et pourtant, lorsque Goliath tombe, en fait, ils peuvent se lever et marcher dans une victoire qu'ils n'ont pas produite. Et c'est exactement ainsi que l'Évangile fonctionne. Jésus-Christ est le vrai champion. Il ne vient pas pour nous apprendre à être plus courageux ou pour affronter l'ennemi que nous ne pouvions... Pardon. Il ne vient pas pour nous apprendre à être plus courageux, mais pour affronter l'ennemi que nous ne pouvions pas vaincre, qui est le péché, la culpabilité et la mort. Et sur la croix, il entre dans la vallée à notre place. Il porte notre faiblesse, notre peur, notre honte. Et quand il crie « Tout est accompli », la victoire devient la nôtre, avant même que nous ayons levé une pierre. Voilà pourquoi l'obéissance chrétienne ne commence jamais par « il faut faire plus », mais plutôt par « regarde ». Regarde ton champion, regarde Jésus-Christ, regarde celui qui a combattu pour toi, regarde celui qui a gagné alors que tu es resté encore immobile. Et maintenant, effectivement, nous pouvons avancer. Non pas pour gagner la bataille, nous avançons parce que la bataille a déjà été gagnée. La foi chrétienne ne dit pas « sois comme David », mais elle dit plutôt « repose-toi en celui qui est plus que David, notre champion Jésus-Christ ». Et lorsque cette vérité descend dans nos cœurs, elle ne produit pas de l'orgueil, mais elle produit de l'humilité. Pas de la peur, mais de la paix. Pas la passivité, mais une obéissance joyeuse. Parce que la victoire ne dépend pas de la taille de notre foi, mais de la grandeur de celui en qui nous plaçons notre foi. Amen.